RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessert de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Namur, quand c'était la guerre. Alors la semaine dernière, vous vous rappelez peut-être, on est parti à la rencontre de Madame Philippot qui est née à la toute fin de la guerre et qui se demandait si elle pouvait faire comme son papa et pardonner les Allemands. Eh bien ça nous offre une très belle transition parce que juste après, on a rencontré à Wepion Monsieur Paul Fritsch qui est né en 1928. Et Monsieur Fritsch, eh bien, c'est un ancien soldat allemand. Alors quand je dis soldat allemand, faut vite le dire, parce qu'il avait 16 ans, il a été enrôlé de force à la toute fin de la guerre. Et l'histoire de Paul Fritsch, elle est assez intéressante, parce que voilà, elle nous place de l'autre côté de la barrière, parce que ici, ben voilà, il a été soldat très très peu de temps, hein, puisque je vous l'ai dit, il a été enrôlé vraiment à la toute fin de la guerre en 1945, et par la suite, il a été prisonnier notamment à Wepion, où il a décidé de poursuivre sa vie une fois qu'il n'a plus été prisonnier, et donc depuis la guerre, il habite Wepion. Je trouve que c'est une histoire formidable, comme on en entend peu, et voilà, j'ai hâte que vous puissiez la découvrir. Or, si vous aussi, vous connaissez des gens qui ont ce genre d'histoire formidable, ou bien alors si vous souhaitez témoigner directement, vous pouvez nous contacter. Alors évidemment, on ne peut pas relever les témoignages pour le moment en raison de la crise sanitaire, mais on peut toujours prendre contact et fixer un rendez-vous quand tout ça sera terminé. Et donc, vous pouvez nous contacter par plusieurs moyens, soit sur notre site internet www.namuranguerre.be, www.namuranguerre.be, par email à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be, par téléphone au 0400 74 114 909, 0400 74 114 909, ou bien alors par courrier à l'adresse donc ASBL Namur INC, rue Moncrabeau 6, à 5000 Namur. Je vous laisse donc en compagnie de Paul Fritsch, un ancien soldat allemand qui a été prisonnier à Wepion et qui a fait sa vie.
Mais je suis le dernier 4 mois de guerre. J'ai été fait prisonnier par les Américains. Et puis je suis devenu anglais et puis devenu belge. Parce que les zones d'occupation que les alliés ont fixé ça à la fameuse conférence de Yalta. Mais à la fin des guerres, ça n'était pas comme ça. Les Américains, ils ont régulé 200 kilomètres qu'on a fait les zones. Alors un jour, lui, d'avoir des Américains comme quartier, c'était des Anglais. Et après, j'ai été revenu en Belgique dans 5 ans, à Marienbourg. C'est entre Anvers, sur la route entre Anvers et Breda. Alors j'ai été longtemps. Et puis nous sommes venus dans 5 ans à la Hulpe, ici en Bruxelles, très grand camp. Et de là, je suis parti dans un petit patelin du côté de Mons, comme prisonnier belge. Alors à partir de là, j'ai travaillé dans la mine, à l'autre Linsard. Il y avait plusieurs camps à Charleroi, hein. Châtelineau, Marchien-le-Pont, à l'autre Linsard. À l'autre Linsard, j'ai travaillé, passé un an dans la mine. J'ai été blessé dans un coup de crissou, il y avait 16 tués, 8 prisonniers, 4 Belges, 2 Italiens. Là, j'ai été à l'hôpital militaire. Charleroi. Je pourrais quitter après 15 jours, 3 semaines, mais j'ai resté 6 mois. Parce que les chefs médecins belges, ils s'occupent, je ne sais pas pourquoi, mais ils s'occupaient de moi et ils m'ont carté à l'hôpital. Et après 6 mois, je suis quand même sorti, je suis retourné au camp, mais je n'ai plus travaillé dans la mine. J'ai travaillé pour commencer chez un fermier à Lèves, pas longtemps. Après le fermier de Lèves, j'ai travaillé au château de Pierrepont à Arbre, mais toujours comme prisonnier, je vous parle. Hein. Et à Arbre, je suis Arrivé, oui, bien. Je ne sais pas si vous connaissez le château de Vasage, le petit château au bord de la Meuse. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en face du grand château de Dave. En face, il y a un petit château,
D'accord.
juste en face de Dave. C'est le château de Vasage. Là, j'ai été 2 ans. Et puis, j'ai été déparé. 2 ans prisonnier au château, encore après, j'ai été déparé. J'ai travaillé chez un entrepreneur, et puis, j'ai travaillé 22 ans à Saint-Levé, à Schmepp. Et voilà. Les prisonniers, j'ai été donc à. Je suis prisonnier la nuit du 1er mai en 1945. Et je suis venu en Belgique le 5 juillet en 1945. Alors j'ai fait pour commencer tous les camps, hein. Alors à Maria d'Arrèze, à la Hulpe, et puis côté de Mons, et puis aller à l'Oblensa. Travailler dans la mine 2 ans. Et puis dans la mine, ça a été le fermier, et puis le château de Pierrepont, toujours comme prisonnier. Hein. Et donc j'étais aussi encore prisonnier. J'étais libéré en 1948. Alors j'ai commencé à travailler pour l'entrepreneur de Vébion, et puis. Et ma carrière ici, hein.
Le matin, quand le réveil sonne et qu'on entend debout là-dedans, on court au Jules Cabronchonne. Tous les troupiers sont sur les dents. Que le major qui est un arriviste vous fiche dehors illico. Ou que la Judan qui vous traite de fumiste vous fiche dedans, c'est kiff kiff bourricot. On est de corvée, c'est naturel, ça c'est le bon motif sans piternel. Pour passer le temps, y a rien de tel, mais faut toujours être ponctuel. On donne un coup de balai mollement, on baille, on s'étire qu'elle a carrément. Oui, mais s'il passe le juteux, on lui en fout plein les yeux. On ramasse tous les déchets de ce que l'on vient d'éplucher. Et quand il nous tourne le dos, on s'arrête subito presto. Si parfois il revient sur ses pas, alors on en fait des petits tas. Puis dès qu'on voit qu'il est plus loin, on remet le tout dans un coin. Comme on fait ça, journellement. On se porte bien naturellement et rataplan, tête de corvée, il n'y a pas, c'est le filon pour le soldat. Ta-ra-ta-ta, qu'on soit de garde à l'écurie ou qu'on astique les lavabos, vaut mieux ça que l'infirmerie, on dort moins et puis c'est plus beau. Qu'on soit de chambré ou qu'on soit de bâtard, pour nous c'est du même au pareil. C'est le meilleur truc pour se tirer des pattes. On garde au moins un teint rose et vermeil. On est de corvée, c'est naturel, ça c'est le bon motif sempiternel. Pour passer le temps, y a rien de tel, et puis c'est un ordre formel. On va, on vient sans se presser, il s'agit de ne pas se fatiguer. Faut se méfier de l'adjudant, c'est le seul qui vous surprend. Aussi pour être à la hauteur, il ne faut pas craindre les odeurs. Savoir sourire à tout propos, même si on vous traite d'idiot. Répondre oui et jamais non, parce qu'on vous pose comme question. On fait ainsi, sans bout de chemin. La classe arrive et c'est la fin, comme on l'attend, journellement. On se porte bien naturellement, et rataplan, tête de corvée. Il n'y a pas, c'est le filon pour le soldat. Ta-ra-ta-ta.
Oui, je suis resté en Belgique, j'ai dit à Lille, par le Rhin. Pour commencer, j'ai travaillé pour l'entrepreneur, béton, habitué à la laiterie Blanche-Neige à Sanson, qui n'existait plus. Et puis j'ai travaillé 22 ans à Solvay, à Chemep. Oui, de là, j'étais pensionné. Pourquoi que je ne voulais pas rentrer? Parce que. Et chez moi, ça a été occupé par les Russes. Beaucoup de gens essayaient de partir. Hein. Alors un jour quand même, je me suis décidé de retourner jusqu'à Wolfsburg, c'est là où l'usine mère de Volkswagen. J'avais un oncle là-bas. Alors j'arrive là-bas, où est-ce que tu vas? Je dis, je retourne à la maison, c'est pas comme un autre. Tout le monde essaye de partir, je vais rentrer. Alors... Je connaissais déjà ma première femme ici. Oh ben alors c'est autant de retourner. Alors je suis revenu. C'était toute une histoire pour revenir. C'était compliqué, mais j'avais beaucoup de temps. En Allemagne, oui, j'ai encore une petite sœur, un neveu. les cousines et les cousins, mes parents, mon frère, ils sont morts. Ouais.
Et à ce moment-là, ils vivaient toujours ou pas?
À ce moment, quand j'étais...
Quand vous étiez prisonnier ici?
Ah oui, hein, ils vivent encore. Hein. Et puis quand j'ai été déparé, je retourne tous les ans hein, en voiture. Il fallait des à ce moment-là, c'était encore occupé par la Russie, il fallait des passeports, ouais, tout un truc. Hein. Ouais. Mais j'ai déjà longtemps maintenant que je n'ai plus été, quelques années, bien 3 ans. Ouais. Parce que mon frère est mort, les oncles, les tantes, j'en ai plus. Ah oui, hein, j'en allais pratiquement tous les ans. Hein. Avant, au train, parce qu'on ne pouvait pas autrement. Et après, en voiture, les étrangers pouvaient aller en voiture, mais pas les Allemands de l'Ouest. Après, oui. Mais je suis retourné 2-3 fois au train, et puis je suis retourné en voiture. Ouais. Mais il fallait beaucoup de paperasse, hein, démonter. Mon frère, il fallait démonter des visas, tout ça. Ça a été un problème. C'est une petite ville tout près de Leipzig, en Saxe. Zwickau. Il y avait l'île de Dave, vous connaissez l'île de Dave. L'île de Dave, ça appartient à un oncle, ça appartient à Monsieur Jean de Vassage, qui a un château à Dave, un petit château qui était près de la Meuse. Et lui, il était propriétaire de l'île. Maintenant, c'est la région Wallon. Et on travaille toute l'île, parce que c'était de mauvais herbes, et ils ont planté des îles tout plein de pommes de terre pour replanter après, pour nettoyer le terrain, pour replanter après les pommiers, qui existent toujours maintenant, les pommiers. Alors moi, j'ai arraché, pendant passé 2 mois de pommes de terre, ils avaient un bateau américain avec le rhum, on arrachait les pommes de terre, on les cherchait, on venait au château avec. C'était sur l'île d'Étave, oui, oui. Oui, oui. Maintenant, on ne peut plus aller sur l'île. Hein.
Non.
Non, à ce moment-là, ça partait à monsieur de Jean. Monsieur Jean, c'était grand, un grand morceau de patate. Oui. Mais au château, j'étais bien. Hein. J'étais encore prisonnier à ce moment-là. Hein. Mais là, j'ai été plus ou moins un prisonnier de luxe. Hein. J'allais nager dans la Meuse. Le patron allait avec moi vers l'escalade du rocher Nevio, et puis j'étais avec lui en Prétinant, où sont les rochers là. C'est entre Tinant et Juvet, il y a un passage, où est-ce qu'il y a le château à droite, il y a un grand château à droite, un peu à droite là, mais des plusieurs fois. Oui, ça c'était bien, mais à pas, j'ai le fermé, tiens-toi. Oh. Allez, je me lève à 5h du matin et j'aurais fini à 9h au soir. Il n'était pas aimé par les gens hein, parce qu'il frappait sa femme, que c'est pas ça. Et j'étais là à Bâques, puis c'est le mauvais temps. Il me fait ça, tourne les et le quart-champette il passe. Il avait un quart-champette en kaki, tout ça. Il parlait bien allemand. Il habite à Lille. Il me dit, ça va, gamin? Je dis, oui, monsieur. Tu te plais bien ici? Oui, monsieur. Eh bien, merci, c'est le premier qui se plaît bien ici. Oui, ça a été. Alors, j'ai réclamé. Il y avait un frère, Louis, qui était marchand de bêtes à Foch. Il avait une voiture, ils me sont conduits. Alors, avant d'arriver au camp, il me dit, tu cartes lui dire que le travail était trop dur pour toi. Au camp, on m'a fait rentrer, on avait le commandant de camp, ça a été un officier de machin d'Ardennes, comment est-ce qu'on s'est chassé Ardennes, oui. Il était très strict, mais très correct. Par lui, je savais que j'avais tué les 3e prisonnier qui était. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, je dis, voilà, hein. J'ai mangé une fois la viande tant que j'étais là. Enfin, c'est ce détail. Il a dit à lui, vous pouvez retourner, il n'y aurait plus de prisonnier. Et il a retourné sans avoir un prisonnier. Hein. C'était un méchant, un fainéant. Il emmène cheval de aller aux courses. Fait un pseudo de l'enfant, sa fille qui est travailleur. Hein. Mm. Enfin, c'est des détails. On ne rentre pas là-dedans. Oui. Après la ferme, j'étais au château de Pierre-Pont-Arbre. Là, j'étais très bien aussi. Mais seulement, il fallait un contrat avec moi. Et ça, à ce moment-là, je voulais retourner chez moi. Alors, il a pris un autre. Et après ça, j'étais au château de Faux. Et au château de Faux, et puis, j'ai été bien. Mais pas tout le temps comme prisonnier, hein, parce que j'avais été. Après, j'ai resté un an en ouvrier libre. Oui, je suis arrivé donc en 46 au mois de mai, que je suis arrivé au château. Je n'étais plus prisonnier, oui. Mais ça a été fait, c'était en 48. Exactement l'état, je ne saurais pas vous dire. Ça a venu par les autorités, hein, ben, au-dessus, hein, on a décidé que c'était fini, parce que pratiquement tous les autres qui travaillent dans la mine, c'était déjà démobilisé à ce moment-là. Hein. Parce que la Belgique, vraiment des prisonniers dans les camps, il n'a pas gardé longtemps. Hein. En 48, déjà en 47 qu'on a commencé à démobiliser. On m'a dit maintenant, Rolf, tu es libre. Ça s'est emmené par les autorités. Hein. Ils ont pris une décision que ça a été fini pour les prisonniers. Il y en a encore assez bien. Hein. J'en connais deux allées, une à Saint-Bernard. Quand tu vas le dimanche, par exemple, c'était aussi libéré, tout à coup. Mon oncle, j'avais un oncle qui m'a écrit que si tu sais rester un peu, il reste parce que les Russes ramassaient beaucoup de jeunes gens pour aller travailler en Russie. Hein. Mais c'est-à-dire, ma première femme, elle était bien. J'ai resté avec bien. Alors, comme j'ai travaillé à la laiterie, on a resté à jambes. Oui. Et puis, à la mort de ma première femme, elle est restée à Profondeville. Et ici, je reste depuis 22 ans, ici, dans la maison.
V'là longtemps qu'après la soupe du soir, de dessus le banc où je vais m'asseoir, je vois une femme, une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. En fait, femme, je m'y connais pas d'état, mais je me dis, en voyant ses appâts, sûrement que des beautés pareilles, je crois bien qu'il y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dedans la rue, on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, c'est la caissière du grand café. Entourée d'un tas de verres à pied, bien tranquille devant son encrier, elle est dans la caissière, ça fait qu'on n'en voit que la moitié. Et moi que déjà je l'aime tant, je dis tant mieux qu'on cache le restant, car si je la voyais tout entière, je deviendrais fou complètement. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Et quand j'ai des sous pour mieux la voir, je rentre prendre un café noir, tout en faisant fondre mon sucre. Pendant une heure, je la reluque, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. C'est curieux, comme les amoureux, on se comprend rien qu'avec les yeux. Quand elle me regarde, je la regarde, ça fait qu'on se regarde tous les deux. Quand elle rit, c'est moi que je souris, quand je souris, c'est elle qu'elle rit. Oh, si je ne crois pas que ça tarde, je vais voir le paradis. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Pour lui parler, depuis longtemps j'attends, dans son café, il n'y a plus de clients. Alors c'est de pire en pire, on dirait qu'elle les attire. Avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. Ni non plus, j'ai fait un mot d'écrit, j'ai voulu le lui donner aujourd'hui, mais je suis resté la bouche coite, et je ne sais pas ce qu'elle a compris. En voyant mon papier dans la main, elle m'a dit doucement d'un air malin, au fond du couloir, la porte à droite, tout au fond, vous trouverez bien. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne, mais les femmes, ça n'a pas de raison, quand ça dit oui, ça veut dire non. Oh, si elle veut plus que je l'aime, mais moi je l'aimerai quand même, et je n'oublierai jamais le chignon bien coiffé de la belle caissière du grand café.
Dans ma famille, il y en avait beaucoup. Mon oncle était en Russie, en Sibérie, 8 ans. Il a fait prisonnier en 43. Mon cousin Herbert, en Russie aussi. Mon oncle Gustave, en Italie. Mon cousin Werner, au Canada. Mon père en France, et moi ici. Il y en a taille, hein. Il y en a encore autre dans la famille de loin que je connais pas. Oui, oui.
Et comment est-ce que vous avez fait pour apprendre le français?
Comme ça. On entend parler. Avant, on parlait peut-être avec drôlement. Hein. J'ai appris avec aucun livre. Hein. J'ai appris comme ça. Ça a pris certainement un petit temps. Hein, mais ouais. Non, non. Le wallon aussi, hein. Un miette, madame de masse.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale?
Message aux jeunes, que tout le monde fait attention que ça n'arrive plus. Hein. Parce qu'ici, c'est genre une histoire. Au début, quand ça a été... avant qu'il vienne au pouvoir de Hitler. La partie la plus forte en Allemagne, c'était les communistes à ce moment-là. Alors, pour que l'Allemagne ne devienne pas une république comme en Russie, en soviétique, en 1933, les libéraux ont voté pour les nazis. Et c'est pour ça qu'il a eu la majorité pour devenir chancelier, hein. Et après, quand le président Hindenburg est mort, il a pris tout en la main. Hein. C'est moi et personne d'autre. Hein. Autrement, on n'était pas la partie la plus forte. Hein. C'était à cause des libéraux. Et c'est pour ça que les libéraux ne sont jamais devenus grands. Encore maintenant, hein. Ils sont petits. Hein. C'est une histoire. Mais au début, parce que l'Allemand même ne savait pas qu'il travaillait, parce qu'il parlait toujours de la paix. Alors il a fait des choses que même celles qui étaient opposées avant contre lui sont devenues pour lui. Hein. Il a construit des autoroutes, hein, parce que tout le monde a rigolé de lui, parce qu'il a construit des autoroutes. Il a dit en 20 ans les routes seront trop petites, parce que vraiment con ne dit pas. Il a dit à Ferdinand Porsche, construisez-moi un auto que tout le monde sait s'acheter. Il a fait la coccinelle. Le Porsche, ça existe encore, là, encore la même famille. Mais lui, longtemps qu'il est mort, il a construit la coccinelle. Hein, c'était aussi un été à lui. Mais ça, il y a beaucoup de choses. C'était pour commencer, il a profité le contrat de paix qu'on a fait en 18. L'Allemagne a été écrasée. On avait beaucoup à payer, hein, des milliards, des millions. Même le général Foch, le français, a dit, quand on a vu les conditions qu'ils ont mis, il a dit, c'est pas un contrat de paix, c'est un armistice pour 20 ans. Il avait raison. Il avait raison, hein. Mais autrement, les petits hommes en Allemagne, ils ne savaient pas que mon homme travaille pour la guerre, hein. Mais le chose avait déjà fait en, aux possessions en lui en vente. Pour commencer, il a récupéré le sous-tête. Et puis il a annexé l'Autriche. Il a récupéré, occupé militairement Plassard. Et quand il a attaqué la Bologne, si le Saut avait attaqué par ici, c'était quand même la France, l'Angleterre, c'était quand même dans le contrat avec la Pologne. S'il avait attaqué à ce moment-là ici à l'Est, il n'aurait jamais fini en Pologne, hein, Hitler. Mais ils n'ont rien fait, le Saut. On les sait faire. C'est pour ça qu'on ne sait pas si certaines choses n'ont pas été voulues. Parce que personne qui s'entendait à ça. Sans une chose, c'est vrai, dans le territoire qu'on a coupé en Allemagne en 18, c'est des Allemands qui sont toujours restés là. Ils étaient fort, pas très bien traités, hein. Il a commencé, il a dit ça comme prétexte, mais je ne sais pas, je sais pas. Et ça a été arrivé, que personne ne s'attendait, parce que la guerre est arrivée, je ne sais plus quel jour que c'est. Mais le lendemain, il y avait un timbre de ravitaillement, donc ça a été préparé à longtemps, hein, à long terme, hein, pour empêcher, comme en 14, celle qui avait de fric, ça avait acheté beaucoup de choses. Hein. La guerre, le lendemain de la guerre, on distribuait le timbre de ravitaillement. Personne ne s'attendait à ça, hein. Personne, hein. Oui, hein. Parce que quand ça a commencé, il a parlé à la radio, Hitler, hein, parce que, comme prétexte que les gens étaient maltraités, alors on a attaqué un émetteur radio à la frontière allemande. Les autres étaient, c'était des Allemands en uniforme boulonnais, on n'a jamais su quoi. Et ça qu'elle a pris comme prétexte, elle a dit, quand on a parlé, « Depuis un matin, on tire aussi. » Donc il voulait dire que les autres avaient tiré avant, mais tout ça.
Et voilà donc pour ce témoignage très intéressant de Paul Fritsch qui nous place voilà de l'autre côté de la barrière. Voilà, on voit que forcément ceux qui étaient nos ennemis, ben, des fois ils n'étaient pas vraiment, n'avaient pas vraiment l'envie de monter sur le front loin de là. Je trouve ça assez intéressant d'avoir ce point de vue-là également. Et donc, ben, vous allez découvrir la semaine prochaine, un nouveau témoignage. Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner, ben, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Plusieurs moyens pour cela. Par Internet, on a un petit formulaire en ligne sur le site www.namurenguerre.be. C'est aussi là que vous retrouvez tous les podcasts, hein, si vous souhaitez réécouter les émissions. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse info@namurinc.be. info@namurinc.be. Nous contacter par téléphone au 0400 74 114 909, 0400 74 114 909, ou encore nous envoyer un petit courrier à l'adresse ASBL Namur INC, rue Montcrabeau 6 à 5000 Namur, rue Montcrabeau 6 à 5000 Namur. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à la prochaine!